pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà, non, je n'ai pas touché.
C'est déjà de gauche.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Dans ce nouvel épisode, j'ai reçu Romain Molina, journaliste indépendant et grand empêcheur de tourner en rond. Avec lui, on a parlé de ces personnes dans l'ombre qui tirent les ficelles du football, ces personnes quasiment inconnues du grand public, mais qui pourtant pèsent bien lourd dans le game. Une discussion liée à la sortie du livre Mano Negra, paru chez Hugo Sport, qui traite de ce sujet en long et en large. Avec Romain, on n'a pas parlé que de ça, évidemment. Entre deux références à One Piece et Evan Barsdale de The Wire, on a abordé son métier de journaliste et comment il le pratique. Le basketteur qu'il est n'a pas pu s'empêcher de parler de la balle orange, donc forcément, on a un peu dévié là-dessus. Et bien sûr, on a parlé football. Ah oui, et dans cet épisode aussi, Romain nous parle d'une de ses prochaines enquêtes dans le football français, une enquête sur des actions criminelles, comme il le dit au micro, concernant un grand nom du milieu. Bref, je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir tout ça dans ce nouvel épisode de Banquette. Salut Romain, comment ça va ?
Très bien Abdallah, je te remercie.
Ah ouais, bien arrivé en France, ça va, merci.
Écoute, bien arrivé, froidement, fraîchement.
Ah, il fait très froid, très très froid.
Ça 18 change. Degrés soleil, j'arrive ici, il fait nuit et je suis tombé malade, quasiment à faune. Mais bon, pour Banquette, je ne pouvais pas manquer, donc je bois le thé.
C'est très très gentil de ta part. Et tu es surtout connu pour faire, tu fais beaucoup de vidéos sur ta chaîne YouTube, tu racontes un peu les coulisses du football, entre autres. Les choses que le grand public dont le grand public n'est pas au courant. Mm-hmm. Donc, t'es très connu pour ça et t'as quand même, on va dire, une espèce de fanbase qui te suit et qui est quand même qui est demandeuse de ce genre d'infos. Et moi, je voulais savoir d'où ça t'est venu, cette envie de faire ce journalisme-là, en fait. Pourquoi tu t'es pas orienté, je sais pas, sur la couverture de matchs, sur l'écriture d'articles un peu au quotidien qu'on peut voir dans l'équipe ou dans d'autres médias, dans d'autres pays? Pourquoi ce type de journalisme-là en particulier ?
Bon, c'est une bonne question, déjà première chose. Déjà, quand j'étais tout petit, j'étais naturellement chiant, comme dirait ma mère. Dès 3 ans, pour donner une anecdote, j'avais été puni avec un autre. Alors que j'ai jugé que ce n'était pas de ma faute, donc j'ai fait la grève de l'école. La maîtresse a dû venir à l'école en vélo, elle a dû s'excuser parce qu'elle a dû avouer, oui, je l'ai puni pour rien. Et j'ai accepté de revenir à l'école. Donc j'ai toujours eu un tempérament un peu revêche. Et donc, j'ai un problème avec l'autorité. Donc, j'ai un sale caractère, on va être honnête. Je joue aussi au basket à niveau semi-pro, j'ai toujours été capitaine. Donc, déjà, j'aime l'indépendance. J'aime être libre de ce que je fais. Donc, déjà, mon activité, j'ai envie d'être heureux. Et moi, j'ai toujours été très curieux, mais trop curieux. J'aime savoir le pourquoi du comment du pourquoi, de remonter. Donc, en fait, j'ai toujours pensé que je faisais du journalisme, sans forcément être journaliste. Je pense qu'on peut être journaliste sans faire du journalisme. Et la réciproque est vraie. C'est-à-dire que même dans mes livres ou des sujets socioculturels, ou même pour parler d'un joueur, je vais toujours aller interroger plein de gens. J'essaie toujours de faire un contenu propre, personnalisé, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, parce qu'en fait, je suis que moi-même. Je n'ai pas envie de jouer de rôle ou autre. Je veux dire, il y a déjà plein de gens qui sont très bons pour faire certains domaines. Moi, je me suis un peu spécialisé pour aller au fond des choses, à tous les niveaux, et de voir le foot avec une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire humaine, évidemment, avant toute chose, hein, parce que ça reste quelque chose d'humain, mais également social, culturel, politique, géopolitique, historique. Donc, c'est un peu mon regard que j'ai, et c'est ce que j'essaie d'exploiter, parce que je suis très curieux. Tu vois, je m'intéresse même à la piraterie.
Ouais.
On n'est pas beaucoup à mon âge à s'intéresser à la piraterie.
Enfin, la vraie piraterie, pas celle de One Piece, hein, on est d'accord.
Non, en effet, pas celle de One Piece. Non.
Et tu penses qu'en travaillant dans une rédaction, entre guillemets, classique, tu n'aurais pas pu aller justement au fond des choses?
Je pense que j'aurais été viré avant pour mauvais comportement. Et on va être très honnête. Non, ça ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais eu vraiment d'offres non plus. Mmh. J'ai toujours voulu être indépendant. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai la liberté de... Ah, si j'ai envie, je me barre, quoi. Donc, j'ai vécu en Angleterre, dans le sud. J'ai vécu en Écosse, à Falkirk, Beauty Scotland. Et j'ai pris ma voiture et j'ai traversé toute l'Europe, de nord au sud, pour vivre en Andalousie. Alors oui, certes, je n'ai pas forcément de stabilité, de sécurité financière, etc. Mais j'ai la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et je pense que c'est important de pas rester fidèle à ses idéaux de jeunesse, mais l'étincelle que j'ai, cette naïveté, cette utopie derrière laquelle je cours, je l'ai en faisant ce que je fais. C'est-à-dire, je fais les sujets que je veux Et après, je me confronte au réel aussi, c'est-à-dire avec la vie des gens, des interlocuteurs. Et j'ai une certaine... Ouais, je suis assez content quand même de m'être fait tout seul et de ne pas, vouloir faire autre chose. Je travaille des fois sur certains médias, hein, en indépendant pour le New York Times, CNN. Mais c'est très rare et c'est juste de manière indépendante.
Ouais, est-ce que tu as des influences dans ta manière de travailler? Est-ce qu'il y a des journalistes ou des médias ou rien à voir, même des œuvres qui t'ont inspiré dans ta manière de faire ce que tu fais?
Alors écoute, quand j'avais 19 ans, je suis rentré à Maxi Basket Basket News, hebdo et maxi mensuel de basket à l'époque. Donc j'étais en stage et après j'ai été prolongé, j'ai travaillé pour la Ligue Nationale de Basket sur leur site. Et en fait, il y avait le rédacteur en chef de Basket News, Fabien Friconnet. Fabien Friconnet, c'est un génie. C'est un génie déjà littéraire, humain, et il était uniquement lui-même. Il est taré, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faisait « Oyez, oyez, braves gens !» Il est 11h11, il montait sur la table, il tapait avec une cuillère, et il redescendait. Ou des fois, il te mettait un coup d'épaule, il dit « Dans 30 minutes, je mange. » C'est le rédacteur en chef. C'était ça l'ambiance.
C'est fou, ça.
Mais c'était à l'ancienne. Mais il était terriblement talentueux, humainement incroyable. C'est... La personne dans laquelle j'ai une inspiration, c'est Fabien Friconnet. Mmh. Pourquoi je te donne ces exemples-là? C'est qu'en fait, il était lui-même. Il était super humain. Il avait un côté drôle. Mais surtout, c'est un diplomate. C'était vraiment des réflexions. Donc, si je dois donner une influence, c'est ce que j'ai connu à Maxi News, à Maxi Basket, Basket News, avec des mecs comme Antoine Lessard, Yann Casville, Thomas Bergeron, Thierry Descamps et tant d'autres. Et après, je suis très inspiré par la littérature anglo-saxonne niveau foot. Des références internationales comme Sid Lowe qui travaille pour le Guardian, David Cohn qui travaille pour le Guardian, Rory Smith pour le New York Times, Tariq Panja et plein d'autres. Et Eduardo Galeano, El Mago Uruguayo, donc écrivain, grand écrivain uruguayen devant l'éternel, qui disait, je cite, qu'il ne faut pas confondre la liberté de pression avec la liberté d'expression, qui a été définie un jour de main de maître par un certain anonyme qui écrit sur un mur. Il nous pisse dessus et les journaux disent qu'il pleut.
Je note qu'à part dans le basket, tu n'as pas d'influence française dans le foot.
J'aime beaucoup ce que faisait Jean-Michel Rouet, ouais, qui était à l'équipe. Philippe Auclair, qui est un copain. Mm-hmm. Mais Philippe, il travaille surtout en Angleterre. Je vais te dire Philippe Brunel en cyclisme.
Oui.
Philippe Brunel, pour moi, c'est un génie. Pierre-Michel Bonneau aussi, dans la rubrique rugby de l'équipe, il me tord de rire.
Mm-hmm. Et à force d'enquêter sur ce monde un peu parallèle du football, est-ce que ça t'a pas dégoûté?
Non, en fait, j'essaye de prendre du recul surtout. Je suis très détaché des faits. C'est-à-dire, déjà, j'ai pas un regard de fan. Je supporte pas vraiment une équipe. J'ai une tendresse naturelle pour le club de Queen's Park Football Club en 4e division écossaise. C'est le doyen écossais, créé en 1867. Luderico Zaludendi, en latin, jouer pour le plaisir du jeu, sans jamais payer un joueur. Donc, c'est philosophiquement, je suis très attaché à Queen's Park. Mais en fait, vu que j'ai pas un rapport de fan, je regarde un match quand j'ai envie de regarder un match. Je m'intéresse beaucoup aux divisions inférieures, aux petits pays, ça c'est un truc qui me passionne. Donc en fait, quand j'enquête sur ces affaires-là, au début ça me choquait, maintenant, tranquille, je prends du recul. J'essaie de pas m'y attacher, et j'en rigole. En fait, j'en rigole, parce qu'autrement tu deviens fou.
Ouais. Justement, c'est quoi tes premiers souvenirs dans le football?
Ouf. Alors, j'habitais dans un village isérois qui s'appelle Erieux. Personne ne connaît, même en Isère, personne ne connaît, à côté d'une ferme et d'une maison de retraite. En fait, il y avait un petit immeuble et il y avait Sylvestre Kofi, qui est un gardien ivoirien, mais il joue à niveau amateur dans le club local. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais tout le temps avec lui. J'avais 4-5 ans. Donc mes premiers souvenirs, c'est Kofi qui me faisait des tirs à côté. Il y avait la déchiterie municipale. C'est une carte postale idyllique. Hein. Et donc, en fait, il y avait un espace vert à côté et on faisait des tirs, etc. Et je voulais être comme Kofi, tu vois. Donc, je voulais être gardien, j'ai été gardien au début. Et après, j'ai rapidement quitté parce que des entraîneurs ont préféré faire jouer leur incapable de fils. Alors, j'estimais que ce n'était pas le cas et je suis parti au basket. Mais donc, mes premiers souvenirs, c'est Kofi. Donc, ouais. C'est gardien, faire des tirs. C'est le plaisir simple du jeu, en fait, que j'aime toujours. C'est-à-dire, pour moi, si le football est pris en otage, ça n'en reste pas que c'est un sport noble et que c'est le beautiful game.
Ouais.
Parce que des gens le prennent en otage, que c'est le football le problème.
Et aujourd'hui, tu regardes à peu près combien de matchs dans une année? Tu disais que tu regardes un match quand tu as envie de regarder un match.
Exactement.
Ouais, tu en regardes à peu près combien?
Ça dépend. Par exemple, cet été, j'aime bien regarder les premiers tours préliminaires de Coupe d'Europe. Ça me passionne. Notamment les clubs britanniques un peu perdus. Mmh. Après, ça dépend quand j'ai des potes. Là, j'ai regardé Albanie-Écosse parce que j'ai une tendresse naturelle pour l'Écosse. Là, je me fais des matchs vraiment intéressants avec Steven Fletcher, l'ancien Marseillais.
Mais l'ancien Marseillais, ouais.
Mais j'aime beaucoup ce Fletch. Mais c'est un crack avec son pied gauche. C'est juste qu'il n'a pas de pied droit et c'est pas un goléador. Mais techniquement, c'est un crack pour un Écossais. Le mec, il fait des passes décisives en talonnade, mais bon, c'est juste que devant le but, il a un problème. Mais bref, grand amour pour Fletch. Et plus sérieusement, ça dépend. Moi, j'aime bien voir le match live, tu vois. Après, j'ai mes entraînements de basket, match le week-end. Donc, ça dépend. Je peux pas donner un nombre en particulier. Quand j'ai envie de regarder, je regarde. Je m'intéresse aussi au jeu, etc. Mais en fait, j'essaye toujours, quand je m'intéresse à un sujet, d'aller au bout des choses. Tu vois, par exemple, c'est sûr que si je veux apprendre dans le jeu, je vais lire, par exemple, les articles de Christophe Kuchli ou d'autres personnes. Mais je pourrais pas te donner un nombre exact. Par contre, quand je regarde un match, c'est parce que j'ai envie de le regarder. Je veux jamais qu'on m'oblige à regarder un match. Toi, je vais pas regarder de la Ligue 1, à moins qu'on me force. Je crois que même si on me donnerait 10 000 euros, un 3 Amiens, non,
ça te passionne pas, quoi.
Non, mais 3 Amiens, mais c'est le cimetière des éléphants. Avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, mais des fois, je regarde des matchs de Ligue 1 et je me dis non, mais. Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse dans le foot, c'est ce qui est aussi autour du foot, tu vois. C'est une histoire géographique, humaine, culturelle, sociale, découvrir des gens, partager des trucs. Donc, c'est fascinant aussi, ces clubs-là. Quand tu le regardes en streaming pourri, parce que j'ai pas de télé. Bon, faut que j'ai une bonne raison pour le regarder.
C'est sûr que pour regarder un 3 Amiens.
Je préfère lire ou m'entraîner au basket. Quoi.
Effectivement, justement, le basket, moi j'aime beaucoup ce sport. Mm-hmm. Et à choisir, tu prends plus de plaisir à regarder un match de basket ou à regarder un match de foot en Écosse-Albanie par exemple?
Ça dépend. En live, foot.
Ouais.
Parce qu'en fait, il y a l'avant-match et l'après-match. Moi je bois pas, mais par contre, j'adore parler aux gens, etc. C'est un truc fun. Je veux dire, j'ai quand même fait un Corée du Nord-Hong Kong, donc à partir de là, venez me chercher. Et à regarder match de Euroleague. Je ne suis pas trop NBA.
Ah ouais?
Bah, à l'époque, si, Allen Iverson, les Sixers, contre Big Shaq, Daddy, Kobe Bryant, finale 2001. Ça, c'était du basket. Big Ben Wallace, le Sheed Wallace. L'époque des Pistons, les
2004,
Bad Boys.
Bad Boys de Détroit.
Ah, c'était un peu les Bad Boys, même s'il y avait Rip Hamilton, mais tu avais Tayshaun Prince, Chauncey Billups, monsieur propre, comme je l'appelais, avec son crâne chaud, là.
C'était un big shot.
Ouais, mais sacré joueur. Hein. Oh là là. Puis il avait des épaules, je crois qu'il te mettait un coup d'épaule déjà, t'étais KO. Et bon, j'aime vraiment le basket. Par contre, à pratiquer, alors là, sans commune mesure, le basket.
Ouais.
Le simple plaisir d'être sur un terrain de basket, pour moi, ça équivaut quasiment à un orgasme. C'est même mieux que l'orgasme, je pense. Surtout un panier décisif à la dernière seconde, ça va trouver une meilleure sensation.
Le fameux buzzer beater, ouais.
Ah, j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns dans ma vie. Juste avant. Ah, mais c'était à petit niveau, tu vois, mais même là, putain, c'est...
Mais je pense que c'est un peu comme toi. Moi, je suis un gros fan de foot, mais avec le temps, je préfère plus jouer au basket que jouer au foot. En fait, il y avait cette mentalité un peu trop rustre dans le foot, même le dimanche après-midi, qui m'a un peu saoulé. Et je me suis réfugié dans le basket avec mes potes qui jouaient depuis longtemps. Et je ne sais pas si c'est le cas partout, mais je trouve, en tout cas en France, quand j'ai pu jouer, qu'il y a ce formidable esprit d'accueillir tout le monde. Que tu es un bon niveau ou pas du tout, tu joues sur un playground, bah vas-y, joue, pas de souci, on te passe la balle. Et...
La culture playground, elle voilà. Est... La culture playground, c'est quelque chose de très important et très intéressant. Parce que c'est vrai, on peut le faire un peu pour tout le monde. Alors après, ça dépend. Des fois, tu vas avoir des battles un peu plus sérieux,
des matchs un peu plus sérieux.
Ouais. Mais globalement, aussi, quand tu fais du basket, tu sais très bien que s'il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de niveau, c'est beaucoup plus dur de progresser au basket. C'est parce que, notamment le shoot. Au foot, quand même, tout le monde arrive à peu près à se démerder. Bon, moi, je suis nul. Hein. Techniquement, c'est une... Tu vois Diego Lugano?
Ouais, à côté, je ne suis pas très fort non plus. Hein.
À ma côté, c'est un artiste. À côté, la Tota Lugano, c'est un artiste. Quand j'étais en Corée du Nord, on a fait un match contre des étudiants de langue étrangère et un Coréen m'a dit « t'es trop agressif ». Venant d'un Nord-Coréen, c'est un très gros... Parce qu'il joue comme des kamikazes. Hein. Il te met des coups, t'as rien compris. Mais moi, je joue à l'Uruguayenne.
Ouais.
Uruguayo.
Bon, on va parler un peu de ton bougain qui s'appelle la Mano Negra, ces forces obscures qui contrôlent le football mondial. Pourquoi cette envie de parler de ce sujet-là?
Parce que c'est marrant. Non, plus sérieusement, moi ça me fait... Enfin, je te dis, j'ai arrêté de me prendre au sérieux. Et en fait, c'est des personnages de fiction, mais tous. En fait, on parle souvent des millions. Et les gens qui pensent que c'est l'économie qui gouverne le foot, ils sont pas forcément tort. Hein. On vit dans un système avec de l'argent, ok. Mais est-ce que c'est la chose la plus importante dans le milieu footballistique? Je m'explique et je donne un exemple. En termes d'industrie, c'est une industrie le football. Donc les clubs sont à juger comme des entreprises. Les revenus qu'ils génèrent, ce n'est pas des revenus énormes. Je veux dire, c'est même très faible en termes de revenus, contrairement au pétrolier, le gazier, même les hôtels, etc. On va rarement dépasser le milliard et tout. Même sur le dernier mercato, on parle de 5 milliards pour un été, c'est énorme, attention. Ouais. Mais comparé aux autres industries, c'est très faible. Or, l'exposition médiatique au niveau mondial est inversement proportionnelle aux revenus générés. De fait, pourquoi autant de millionnaires et maintenant de milliardaires, de business club, comme dirait James Montag, d'hommes d'État investissent massivement dans le football, également de criminels? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent simplement ou est-ce qu'il y a autre chose? Moi, ma grille de lecture, elle est simple. C'est que l'argent est un rouage du pouvoir et que derrière ça, le football fait partie d'un phénomène de mondialisation. On peut le prendre, par exemple, l'exemple en Mongolie, qui est en train de se mondialiser, sédentariser parfois par endroits, où le football est un processus faisant partie de l'intégration dite du progrès de la Mongolie dans le monde dit moderne. Donc ça m'intéressait, cette approche pluridisciplinaire-là. Et surtout, pourquoi autant d'États ont utilisé le foot comme arme diplomatique, quelque part. On l'avait avec le Qatar, avec le Paris Saint-Germain.
Le fameux soft power.
Voilà, mais c'est tranquille, le foot. Mmh. Et surtout, dans les matchs de foot, tu rencontres tout le monde. Des industriels, des politiques et tout. C'est un peu comme les paddocks de Formule 1 il y a quelques années. On investit un peu à perte parce qu'on va se créer un réseau, etc. Donc en fait, moi, j'ai utilisé cet angle-là en regardant et en réfléchissant. Et donc, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, déjà les histoires. Et surtout, en fait, c'est pas du tout abordé. Souvent, quand on parle des dessous du foot, c'est transfert, argent, etc. On oublie l'humain. Tu vois, c'est, pour moi, le foot et les transferts et tout ça, c'est comme une milonga. Alors, je suis nul, je sais pas danser. Mais je vois à peu près comment le tango, ça fonctionne. T'as la danseuse, t'as le danseur, c'est regard complice, parfois regard de braise, je t'embrasse pas. C'est le jeu de la séduction. Tu viens à moi, je viens à toi, etc. Ou je te refuse. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui va faire que les deux danseurs vont finir par peut-être s'enlacer lascivement? Tu sais pas vraiment, c'est un rapport humain. Et souvent, on a tendance à oublier ça. Il y a quelque chose qui va faire que. Et c'est l'humain, le contact, le relationnel. Donc, c'est aussi ça, un peu le thème du livre. Ça se lit un peu comme une milonga, mais avec quelques meurtres quand même à la fin.
Donc, derrière tout cet argent, il reste quand même des hommes. Il y a toujours des hommes qui sont à la base de...
Il y a des cerveaux, surtout.
Ouais.
Parce que si le système aujourd'hui fonctionne ainsi, c'est qu'il y a des mecs qui l'ont inventé. Donc, moi, je me suis intéressé aux inventeurs de ce système-là. Et l'inventeur quand même de tout ça, il faut s'imaginer que c'est un champion d'échecs à la base.
Bah justement, tu fais bien d'en parler. Tu vas me dire si je n'écorche pas son nom. C'est Juan Figuer, c'est ça?
Exactement,
on dit comme Figuer. Ça. Juan Figuer. Et moi, quand j'ai lu un peu dans ton bouquin sa description, il m'a fait penser à des personnages des personnages réels et de fiction. Je pense à Frank Lucas, par exemple, le célèbre gangster d'Harlem dans les années 60-70. Et un personnage plus moderne qui est Evan Barksdale dans la célèbre série The Wire. Le dealer de drogue de Baltimore, c'est-à-dire, c'est-à-dire c'est des hommes qui font toutes les choses, qui font que voilà, le marché, enfin là pour le en l'occurrence c'est le marché de la drogue, fonctionne dans la ville, mm-hmm. mais personne ne les connaît. En tout cas, la police, que ce soit pour Frank Lucas ou Evan Bardell, a beaucoup de mal à mettre un visage sur ce nom. En fait, il y a un nom, mais on n'a pas de visage, ils sont dans l'ombre et ça m'a fait penser à ça.
Exactement.
C'est un type qui est dans l'ombre et qui tire les rouages un peu de tous les transferts. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quelques mots qui il est vraiment?
Bah déjà, tu as tout résumé. Déjà, c'est voilà. La première chose. Donc, bravo. En fait, Juan Figuer, donc, il a deux dates de naissance. On ne sait déjà pas quand il est né. Son surnom, c'est le fantôme ou El Gordo. Fait 1m57, 90 kg. Il est né à Montevideo, soit en 1930 ou 34. Il était vendeur de maillots ambulants dans les rues de Montevideo. Passionné de foot, mais malheureusement, comme Eduardo Galeano, il était uniquement bon quand il rejoignait le pays des songes. Hein, parce que la journée, c'était la pire jambe de bois qu'on avait vue sur les campitos de mon beau pays. Et en fait, il est devenu agent en quittant tout pour aller en Argentine convaincre les Folies Bergères de se produire au Palacio de Montevideo. Le Palacio, c'est un grand gymnase détenu par le club du Peñarol, son club d'amour. Je rappelle que l'Uruguay est divisé par deux géants, le National et le Peñarol. Et en fait, petit à petit, il va être promoteur de boxe, organiser des matchs de basket, etc. Et finalement, Juan Figuer, il va terminer à inventer toute l'industrie footballistique, tous les business liés à la périphérie du foot, donc droit TV, il était sur les droits d'image, il était sur la TPO, la triangulation, qui sont des notions. Par exemple, un tiers qui va acheter des joueurs, bon. Ça, je laisse dans le livre. Mais c'est assez dingue s'il a géré plus de 1000 transferts. Maradona, Klinsmann, Pelé, à un moment donné, il a eu Neymar. En fait, tous les plus grands joueurs, à un moment donné, ils ont travaillé avec Juan Figuer. Et trouver une photo de Juan Figuer, c'est très rare.
Mais pourquoi, justement, il reste dans l'ombre? Pourquoi ce choix de rester un peu anonyme?
Un bon business, c'est un business discret. Ouais. Un de ses meilleurs amis, c'était le premier agent de Maradona, Jorge Sitzelspieler. Et il disait au préparateur physique de Maradona, Fernando Signorini, qui me le raconte, il lui a dit un jour: mais tu connais l'agent de Frank Sinatra? Non, parce que t'as pas besoin de le connaître. C'est pas lui la star. Et il a tout compris. Les mecs qui veulent montrer leur tronche et dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, souvent c'est des mecs qui pèsent pas. C'est comme dans la voyoucratie. Le mec qui l'ouvre énormément, c'est un mec qui pèse pas. Exactement. C'est comme le mec qui dit je vais te casser la gueule, je vais te casser la gueule, je vais te casser la gueule. Non, le mec qui va vraiment te casser la gueule, il va pas te le dire. Il menace pas. Bah là c'est pareil.
Ou c'est comme le casier, un vrai voyou n'a pas de casier par exemple parce qu'il reste discret.
C'est gangster moderne.
C'est ça.
C'est MC Solar, il a tout. Mais tu prends MC Solar, j'ai l'esprit critique et lis la presse quotidienne, constate que les ligues politiques sont pleines de gangsters modernes. Ah là, c'est la définition de ces mecs-là.
Et ce qui est fou, donc tu l'as dit, là, ce type a deux dates de naissance, ouais. 1930-1934. Et là, on est en 2018. Tu dis qu'il est impliqué aussi dans le transfert de Neymar. Comment il a fait pour être. Pour perdurer en fait dans le temps, toutes ces années, quoi, avec la modernisation du football et tout.
Il a su se rendre indispensable parce que justement, il avait déjà un empire un peu mondial, polyglotte, diplomate. Et surtout, il y a son fils qui est venu, Marcel, qui a repris un peu la succession. Et le Grupo Figuel, c'était eux qui organisaient des fois les compétitions. Ils allaient voir les droits télé, ils géraient aussi les droits d'image des joueurs. Et à l'époque, il était actionnaire de l'Inter Milan. Et le mec, il se faisait pas payer en commission. Il disait, OK, pour me payer, on va organiser un match amical de l'équipe de son choix. Il allait négocier avec le contrat télé qu'il voulait, le diffuseur qu'il voulait, plus les droits d'image des joueurs pour la question. Le mec, il avait plus ou moins tout. C'est un cerveau incroyable. Et à la base, le type, c'est un champion d'échecs. Et tu le vois, tu dis, non, mais attends, lui, il a des petites lunettes carrées, il fait 1m57, 90 kilos. Mais t'inquiète pas qu'il taquine, le mec. Hein. Puis il est tout calme. Hein. Il est avec sa grosse entrecôte, ses frites. Puis t'inquiète pas, quand il faut parler mignon, le mec, c'est un cerveau incroyable. Donc, il n'a pas eu tout le prototype du mafieux. C'est un gentil, même, tu vois, c'est un gentil. Mais par contre, quand il faut taquiner, il taquine.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il contrôlait deux clubs uruguayens de deuxième division pour les taxes. C'est-à-dire qu'il faisait passer un joueur. Tu as un joueur dans un club A au Brésil. Tu le fais passer dans le club en Uruguay, club B. Et ensuite, tu le fais passer dans un club européen C. En fait, de A à B, petit transfert. De B à C, le vrai transfert pour les taxes. Et en fait, il contrôlait Rentistas et Central Espagnol en donnant chaque mois un peu d'argent au club. Et le jour où il y a un mec qui a gueulé un peu, je peux te dire que le type a reçu des grosses menaces et tout ça. Et en gros, les mecs, ils signaient, ils disaient rien, quoi.
C'est fou quand même.
Bah surtout quand tu le vois, tu peux pas t'imaginer ça de lui, quoi. Tu dis attends, mais tu dirais que c'est ton prof chiant d'économie, quoi. Et le mec, en fait, il privatise des restaurants comme Al Pacino, où il garde simplement un serveur et le chef, qui est souvent le cuisinier, et ça parle mignon, il s'énerve jamais, il est avec des gros cigares, et t'inquiète pas qu'au dessert, bah il a fini le dossier, surtout dans son intérêt, quoi.
Et malgré tout ce que t'as appris, est-ce qu'il a déjà été inquiété par par la police internationale?
Ouais, il a déjà eu des affaires où il était en danger, notamment pour une affaire de faux passeport qui remontait très très loin, et pareil pour des comptes un peu dissimulés. Et à chaque fois, il a quitté. Et c'était génial. Je me suis tapé la retranscription du procès. Donc, ils ont essayé d'accéder à son numéro de téléphone, à plein de choses, et ils n'ont jamais pu. En même temps, il était protégé par Avalanche, il était protégé par des gens très puissants au Brésil. C'est un mec qui, quand même, a organisé des matchs pour le roi d'Espagne, qui a organisé une compétition pour le gouvernement sud-coréen. C'est le gouvernement sud-coréen qui l'a réclamé. Quand on arrive là, que tu as autant de liens politiques et diplomatiques, également avec l'ancien prénom uruguayen, Pacheco, qui est ensuite ambassadeur de l'Uruguay en Espagne, c'est justement la définition du super agent. Ce n'est pas quelqu'un qui interfère sur le marché, c'est quelqu'un qui crée le marché et qui va également développer à travers le football d'autres types de liens et business. Ça peut être commerciaux, industriels, mais également des relations diplomatiques et politiques.
Et un autre homme qui est un peu dans le monde des agents, c'est Pini Zahavi. Tu as tout dit. C'est un nom qu'on entend très souvent dès qu'il y a un transfert, mais on entend un peu tout et n'importe quoi qui est dit sur lui. Est-ce que, on va dire, une bonne fois pour toutes, tu peux nous dire qui est Pini Zahavi et qu'est-ce qu'il fait exactement? À quoi il sert dans ce milieu-là du football?
Bah, tu sais, c'est marrant parce que avant le transfert de Neymar en France, il n'y avait personne qui le connaissait. Je ne sais pas, les experts, c'est comme les bébés, ça naît dans les choux, dans le bec d'une cigogne en regardant des vidéos sur YouTube, parfois j'ai l'impression. Plus sérieusement.
Regarde pas les tiennes.
Ah bah, je te laisse juger. Pinhas, hein, son prénom dit Pini, il a 76 ans aujourd'hui, il a été journaliste. On va dire, pour résumer très simplement, que lui, il dit que c'est le number one et tout le monde dit que c'est le number one du game. Mais moi, pour moi, c'est le game, carrément. Le mec qui, en gros, tout le monde lui rendait compte. Il a formé 90% des gros agents du jour. Lui, c'est le grand diplomate de ce sport-là, avec son côté obscur, évidemment. Mais le jour où il n'est plus là, ça va être pugilat. Tout le monde va vouloir être capot à la place du capot. Donc, il arrive à maintenir un certain équilibre avec sa part d'ombre. Mais quand tu vois ce qu'il a fait, notamment dans la guerre froide, pour Israël, au niveau politique et diplomatique, c'est le seul agent de foot aujourd'hui au monde qui a ce bagage-là. Le seul. Ouais. Mais comme tu dis, il y a tellement de fantasmes autour de lui. Des gens qui parlent sans savoir, parce que maintenant, c'est devenu hype de parler de ce mec-là. Ce mec, c'est une ombre. C'est une ombre. Il parle quasiment jamais. Il faut démêler le vrai du faux, le faux du vrai. Il n'y a quasiment rien qui lui appartient. C'est un mec qui a toujours un coup d'avance. Une grande intelligence, polyglotte, diplomate. Moi, c'est une des anecdotes du livre. En 1980, c'est le premier Israélien non communiste à obtenir un visa pour l'URSS alors qu'il y a rupture des relations diplomatiques depuis la guerre des six jours. Donc déjà, ça te nécessite un appui. Lui, il m'a dit que c'est Lobanovsky, ex-entraîneur du Dynamo Kiev, qui l'a fourni. Et en 89, c'est lui l'architecte de la fin du boycott entre les deux États, avec la visite du Dynamo Kiev en Israël. Donc, quand t'es à ce niveau-là, gérer des transferts de foot...
C'est peanuts.
Mais c'est cacao. Je te dis, c'est le game, le mec. Il y a des gens, vraiment, ils lui rendent des comptes.
Mais c'est fou de se dire qu'entre Figuer et Zahavi, j'ai l'impression que c'est le football, en fait, c'est eux. On parle beaucoup de la FIFA, de l'UEFA, du président des clubs, du Real, etc. Et tout, mais en fait, le football, c'est un peu ces types-là.
En fait, pour moi, la définition du foot, elle a été définie par l'avocat, un des avocats de Pliny, Zahavi, qui s'appelle Udi ou Ehud, hein, on ne sait pas trop, Choktovitch. Alors, Chokatovitch, je dois mal le prononcer parce que mon hébreu est catastrophique. Il avait dit dans une interview israélienne il y a une dizaine d'années, ce qu'il ne parle jamais, hein, mais vous n'avez rien compris. Les dieux du football, ce sont ceux qui aiment le cigare, qui boivent du whisky, qui parlent russe et qui parient des millions sur des jeunes joueurs africains et qui en promet des rêves. Et le mec, alors il se cachait pas. Hein. Bah ouais. Les mecs, vraiment, c'est eux qui font tout. Parce qu'en plus, ils ont des. En fait, ils sont au milieu de tout. C'est des facilitateurs. Si je devais définir ces mecs-là, c'est des facilitateurs. Avec une part sombre, mais aussi avec une intelligence hors du commun et aussi du charisme. Un mec comme Zahavi, il a du charisme. Donc quand il te parle, t'écoutes. Il parle jamais pour rien dire. Il va pas te dire, je vais faire ça. Non. C'est des mecs modestes. Et aujourd'hui, si on entend beaucoup parler des Mendes et des Rayola, c'est parce qu'ils bénéficient d'un système qui a été mis en place par des mecs dont on parle jamais. C'est pas eux les inventeurs. Eux, c'est les bénéficiaires de ça. Je pense que c'est important de remonter aux sources.
Eux, c'est un peu la face visible voilà. Du game, alors que Zahavi, Figuer, c'est les rouages du système.
Bah, c'est les patrons du game. Déjà c'est le game. Parce que Figuer, c'est lui qui a tout inventé. Et Pliny, il a repris, modernisé ce concept-là. Et Mendes, c'est un des étudiants de Zahavi. Ils s'en cachent pas. Ils sont d'ailleurs très potes tous les deux. Rayola, c'est différent. C'est un self-made man différent. Mais quand t'as 76 ans, que t'as eu un empire qui s'étale de l'Amérique latine à l'ex-URSS, en passant par divers pays européens, que tu es en lien direct avec divers présidents de la République à travers le monde, notamment le président de Chypre, où il amène même sa famille. Donc, enfin, m'expliquer, comment un agent de foot peut aller faire des meetings avec le président d'un pays, de Chypre, en même temps ramenant ses gosses. Donc, c'est que le mec, il le connaît, parce que si tu ramènes la marmaille, donc la question, c'est pourquoi ? Ça, c'est une vraie question. Et je te dis, c'est un facilitateur qui est au milieu du foot, qui reste. Lui, il est passionné par le foot comme Figuer. Mais à côté, ils ont aussi d'autres rôles. C'est des facilitateurs d'affaires.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être un club de foot professionnel et exister sans passer par ces facilitateurs-là ? Est-ce qu'on peut se passer de ces gens-là dans le foot professionnel ?
Ouais, on peut, mais à tous les niveaux, on va avoir un facilitateur, mais son influence va être différente. C'est un peu des entremetteurs aussi, c'est souvent ça. Après, on peut s'en passer. Après, ça dépend des zones géographiques aussi. Ces mecs-là, sur certaines zones géographiques, ils ne sont pas bons. Sur d'autres, ils sont très, très forts. Donc en fait, après, ils se répartissent un peu le truc et chacun a ses alliés, ensuite d'autres partenaires ici et là. Genre Zahavi, il a un partenaire sur certains deals qui s'appelle Fali Ramadani, qui est un agent albanais. C'est le numéro un des Balkans. Donc maintenant, dans les Balkans, il est très très fort. Serbie, etc. Donc, mais on peut travailler sans. Il y a des clubs qui le font. Et ça ne veut pas dire que travailler avec eux, c'est la mafia. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. Il ne faut pas être manichéen. Il faut essayer de voir. Et moi, le lecteur se fera son propre avis. Moi, je ne suis pas là pour dire... C'est les bad guys, ils ont tous une fosse obscure, clairement. Ils ont fait des trucs abominables, mais ils ont aussi fait des trucs bien. Donc c'est ce que j'essaie de signaler. Mais donc pour les clubs, ça dépend. Ça dépend vraiment. Tout est possible là-dessus.
Et du coup, toutes les informations que tu nous sors là, qui sont aussi dans ton bouquin, combien de temps ça te prend, ça t'a pris pour justement toutes les rassembler et ensuite en faire le livre qui est sorti ?
Bah écoute, déjà niveau réseau, c'est un travail d'année parce que pour que les mecs te parlent, les connaître, avoir leur numéro, c'est même pas avoir le numéro, c'est que le mec te réponde. Et comment il va te répondre ? Donc ça, c'est un travail d'année au final. C'est ce que j'ai entamé depuis que j'ai commencé ce métier. Mais le livre à proprement dit, 6 mois.
6 mois ?
C'est plus de temps que les autres parce que déjà pour l'écriture, je l'ai pas écrit de la même manière. Il fallait être pédagogique, vulgariser parfois. C'est très géopolitique également.
Parce que les deux derniers, c'était sur Cavani et Unai Emery. Ouais.
Déjà, le Cavani, niveau découverte de l'Uruguay à travers un angle socioculturel, à travers la carrière de Cavani, c'était déjà un peu différent de ce que j'avais fait. Je m'étais quelque part mis en difficulté. Là, à la base, par exemple, je ne suis pas expert du Kyrgyzstan. L'Asie centrale, je m'y intéresse un peu parce que l'ancienne route de la soie et plein d'autres choses. Mais, donc voilà, tu dois énormément bouquiner, avoir des mecs sur place, etc. Donc ça m'a pris énormément de temps pour essayer de comprendre les cultures en fait. Par exemple pour comprendre également la culture israélienne. C'est pas quelque chose dont je suis familier. Donc tu dois t'intéresser que ce soit à la religion juive, sachant que moi en plus les religions je suis pas du tout expert. Donc j'ai dû parler énormément d'israéliens, de franco-israéliens, etc. pour essayer de comprendre un petit peu, même comment ensuite aborder par exemple un mec comme Zahavi. Donc j'ai pris énormément de conseils vis-à-vis de gens israéliens qui le connaissaient, ceux qui ont accepté de parler ou pas. Pour voir, et je ne me suis pas adressé à lui de la même manière que je me serais adressé à une autre personne.
Ouais.
Par exemple, on m'a dit soit cash. Il y a un ami israélien, Ruben, que je salue, il me dit mais Romain, pas de tabou chez nous. Cash. Cash. Voilà.
Et tu as déjà eu des difficultés justement à approcher certaines personnes Des gens qui avaient peur de parler.
Figuère n'a pas voulu parler, mmh. Jean-Michel Aulas n'a pas voulu parler, parce qu'il y a une affaire autour de l'Olympique Lyonnais. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas hein, dans l'entourage de Zahavi. La plupart ne te répondent pas. J'en ai quand même eu, donc c'est un miracle. Mmh. Beaucoup voulaient l'anonymat. Après, j'ai interrogé énormément de personnes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le numéro de Kia Jorapchian, qui est un top 5 agent mondial, qui m'a dit oui, puis après non, etc. C'est un monde de non-dits. Mais globalement, je trouve que le nombre de témoins qu'il y a, honnêtement, je suis content. Ouais. Je suis content.
Est-ce que tu as déjà eu des menaces dans ton travail parce que tu approchais de sujets un peu dits sensibles ?
Bon. Il y a quelques années, j'avais fait une enquête pour CNN autour d'un réseau entre la Belgique et la République démocratique du Congo, à travers l'exemple de Chancel Bemba, l'homme aux 4 dates de naissance. Ce qui est quand même plutôt pas mal, on va l'avouer. C'était l'illustration de tout ce qu'il y a derrière. Et donc, j'ai reçu des menaces, entre guillemets, de mort. Sauf que le problème, le mec, il m'a pas appelé en masqué, il avait laissé son numéro. Monsieur Max Moquet, qui était un président de club à Kinshasa. Et je lui dis oui, monsieur Moquet. Et là, il me fait ha ha ha, ce n'est pas monsieur Moquet. Et il raccroche. C'était exceptionnel. Bon, on avait reçu qu'à peu près 200 appels sur notre fixe en France. Ma mère, on était sur liste rouge. Donc là, elle n'était pas très contente. Des fois, elle se fait appeler et il y a une voix qui rigole au bout du téléphone.
Ah ouais ? Encore ouais. Aujourd'hui ?
Ouais, il y a deux jours. Elle m'a appelé pour me dire ça. Elle me dit Romain, arrête tes conneries. Bon, elle n'a pas tort, je devrais arrêter mes conneries, mais pas sur ça. Après, non, écoute, t'avais le club d'Anderlecht qui m'avait envoyé une lettre, donc il voulait m'attaquer en justice, je sais pas quoi. Je sais que j'ai des gens qui se renseignent sur moi, Angers, club d'Angers quand même, hein, pour un tweet, ce qui est beau quand même, on va l'avouer, par le numéro 2 de la direction sportive, Alex Labatinière, que je salue hein, si tu m'écoutes, Alex, et dirigeant du SCO. À Monaco, il y a des gens pas très contents, les mecs qui regardent un peu. On va dire qu'il y a des gens. Je fais chier du monde. Ça, clairement. Maintenant, des menaces comme ça, non. Pour le moment, non.
Ouais, mais toi, comment tu le vis, le fait que, voilà, c'est des menaces qui sont sur ta vie, en fait.
Ah, ça va, tu vois, je suis pas Indiana Jones. Hein. Ouais. Je suis pas. Il y a des mecs qui vont se victimiser en mode oh là là, c'est dangereux. Non, ouais, je suis à un niveau. J'essaie de me remettre, tu vois, j'ai les pieds sur terre. Ok, je fais chier du monde, mais pour le moment, ça va. Parce que j'ai pas non plus une diffusion exceptionnelle. Mais c'est vrai que je fais chier 2-3 personnes. Maintenant, j'ai jamais reçu de menaces. Des fois, si vite fait, on s'est intimidé. Je sais que je suis sur écoute, ce genre de truc. Mais pareil, j'y prends. Pour le moment, ça va, léger. En même temps, tu sais, si quelqu'un un jour a envie de me dessouder, il me tuera. Je peux rien y faire, j'ai pas envie de mourir. Mais pour ce que j'ai sorti, j'ai rien sorti de particulier. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de tabous et tellement de personnes, excuse-moi l'expression, qui préfèrent rester planquées, que dès que t'as quelqu'un qui ose un peu l'ouvrir, en montrant sa tronche, on a l'impression qu'il s'opère de terribles dangers. Non, pour le moment, ce n'est pas le cas. Même si j'ai pointé certaines affaires un peu louches, pour le moment, ça va. Mais je pense qu'un jour, en fait, on ne va pas m'attaquer, on va essayer de me taper au porte-monnaie, vu que je gagne déjà pas beaucoup d'argent, et ça va être la manière d'y arriver, c'est essayer de m'asphyxier financièrement. Si un jour, vraiment, je fais chier du monde, je pense que ce sera ça, le destin. Et bon, bah, écoute, pour le moment, je n'y suis pas encore. C'est pour ça que je travaille sur d'autres projets également. Mmh. Mais je sais que ça, un jour, ça viendra. Parce qu'il y a 2-3 grosses affaires que j'ai envie de sortir bientôt. Mais là, je te parle de grosses affaires criminelles. Quand je te dis criminel dans le foot, c'est un mec qui peut prendre perpète. Et c'est quelqu'un de très important du football français. J'en dirai pas plus.
C'est pour les affaires. Il y a des morts dans l'histoire ou c'est...
Je vais te la dire. Je te dis juste, je te dis pas le nom, je te dis pas le club. Mmh. Tu vois Weinstein ?
Oui.
C'est de la pisse de chat à côté. Parce que ça concerne quand même des adolescents de 16 ou 17 ans.
Ah oui, quand même.
Et puis on le laisse faire. Donc, t'inquiète pas qu'un jour, ça c'est... Tu sais pourquoi je veux faire ça ? Parce que je suis pas là pour donner des leçons. Mais un mec qui va sur des mineurs, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est le crime des crimes. Tu peux pas toucher un enfant. Tu peux pas toucher un enfant. Et le faire parce que t'as du pouvoir, mais faut être un sombre... Mettez l'insulte que vous voulez. Et ce genre de personnes, c'est pas possible. Il y en a qui vont fermer les yeux. Il y en a plein qui ferment les yeux. J'ai entendu des mecs, des copains, hein, qui travaillent à l'équipe et dans d'autres médias, ils me disent ouais, c'est une autre affaire. Il y avait une affaire de pédophilie dans le football français. Les mecs le savent, ils ont tout. Ils n'ont jamais rien dit. Mais tu te rends compte ? Notre métier, ça se résume à ça. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a un pédophile et tu dis rien ? Putain, mais. Tu vois, il peut y avoir des crimes. Mais ça, c'est pour moi, c'est le crime des crimes. J'ai connu ça. Pas moi personnellement, mais une personne. Qui j'ai grandi. Imagine même pas les séquelles que ça fait. Mais je pense que tout le monde peut s'imaginer. J'imagine, moi j'ai pas de gosse, mais j'imagine, si moi j'apprends mon gosse il a 16 ans et qu'il y a un espèce de salopard qui, dans un grand club français, qui fait le mariole, etc., et qui va, en jouant de son pouvoir, pour excuse-moi l'expression, baiser mon gamin, mais tu lui ferais quoi ? Toi, tu réagirais comment ? Et tu sais qu'il y a des gens qui ont fermé les yeux ? Putain ! Le pire, j'aime pas, c'est pas ça. C'est les mecs qui ferment les yeux. Et moi, tu vois, je peux pas, et j'en parle avec passion. J'ai plus de voix, mais quand je parle de ce genre de sujet-là, mais putain, mais c'est pas possible. On vit dans ce monde-là. Et c'est là, en fait, des fois, on va dire, ouais, je prends des risques, etc. Mais c'est parce que j'ouvre simplement les yeux. Je suis très loin d'être extraordinaire. En fait, ce que je fais, c'est juste un peu d'humanité. Et moi, ce que je déplore parfois, c'est qu'on manque d'humanité.
Je vois que ça t'énerve, justement, de savoir que des confrères, si tu les appelles comme ça, que des confrères ferment les yeux sur sur des sujets aussi, aussi graves.
Alors, l'affaire dont je te parle en question, je pense pas qu'elle est très connue. Et moi, je te parle, je m'en rappelle très bien, le mec, il m'appelle, il me dit « Romain, tu sais pas ?» Et puis, il me l'a sorti naturellement, un entraîneur français, tatati, tatata. Je dis « Mais vous avez les trucs ?»« Ouais, mais tu comprends, on peut pas le sortir, c'est trop chaud. »
Ça ressemble un peu aux réactions qu'ont provoqué la deuxième saison de Football Leaks, justement, où on a entendu beaucoup de journalistes, d'éditorialistes dire « on savait déjà », notamment, je parle surtout du fichage ethnique, dire « on savait déjà, ça se fait ailleurs, mais, mais justement, enfin, moi, c'est un truc qui m'a un peu choqué, bah, si vous saviez déjà, pourquoi ne pas l'avoir dénoncé, en fait ?»
Tu sais que le « ça se fait ailleurs », ça me fait penser… Non, mais je suis pas raciste, j'ai un ami marocain, je mange du couscous, quoi. Ça m'a vraiment fait penser à ça, quoi. Ça se fait ailleurs, mais c'est une insulte de cour de récréation. Vraiment, c'est terrible de dire ça. Mais ça montre un peu à quel point certaines personnes sont déplanquées. Moi, après, sur les Football Leaks, etc., j'ai un regard où je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Maintenant, comme tu dis, ceux qui disent on le savait déjà ou ça se fait ailleurs, c'est se voiler la face. Et je pense que, enfin, moi... Devant le danger, je ne ferais pas l'autruche, je ne mettrais pas ma tête dans un trou. Là, mais bon, il y en a, ça ne les gêne pas, visiblement.
Ouais. Et qu'est-ce que tu en as pensé, justement, de ces informations révélées par les Football Leaks ? Est-ce que toi, tu étais déjà au courant ?
Moi, j'ai des amis dans les Football Leaks. Donc, j'ai aidé sur certains dossiers à l'étranger, notamment sur un peu les matchs truqués, etc. Sur les matchs truqués, c'est fondamental. C'est fondamental parce que là, c'est duper son sport, c'est limite faire un adultère. C'est en gros, tu es avec ta partenaire depuis des années, tu sais pas qu'en fait elle couche avec le postier du coin. Donc en fait, ta relation elle est basée sur un mensonge. Et notre rapport fusionnel et amoureux avec un club de foot, si tu apprends qu'en fait tout est truqué d'avance, bah, quelque part c'est un mensonge en fait. Tu te bases sur un mensonge et moi je pourrais pas. Maintenant, moi ce que je reproche, c'est qu'on se base uniquement sur l'angle financier en oubliant que le financier c'est pas ça qui fait le foot, comme je t'ai dit tout à l'heure sur l'industrie. Et ça, j'aimerais que par exemple les gens qui pensent que c'est uniquement une question d'argent. Et bah, me répondre à cet argument-là parce que je leur souhaite bien du courage pour y répondre.
Et qu'est-ce que tu penses de la réaction de certains supporters, je pense à ceux du PSG en l'occurrence, qui parlent d'un complot, qu'on veut tuer le club, alors que bah, en fait, on a juste pris le club la main dans le sac parce qu'en fait, on a retrouvé les documents. Donc j'ai un peu de mal un peu à expliquer cette réaction. Moi, je suis pour l'OM, mais si j'apprends que demain, j'ai un scandale comme ça, enfin, moi, je suis le premier à critiquer mon club sportivement. Je sais pas pourquoi je pourrais pas le critiquer sur d'un point de vue éthique voilà, donc je comprends pas un peu ses réactions, je sais pas comment toi tu l'as pris.
Je pense qu'il y a un rapport d'amour fusionnel avec les clubs et même d'idolâtrer les gens et en fait on veut voir que ce qu'on a envie de voir. Puis en fait les clubs sont malins, ils savent communiquer au bon moment. Par exemple au PSG le vendredi, ils mettent 10 ou 20 minutes d'entraînement filmé. Et t'as Antero Henrique, le directeur sportif, qui est détesté par les trois quarts des employés parce que t'as la fameuse blague, ah tu as pris le portugais, oulala. Donc bon, et donc tu le vois parler avec Thomas Tuchel, etc. Les deux ils se détestent. Mais bon, on montre ça au public, il y a des gens qui regardent, oh, regardez les journalistes. En même temps, je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte de la vision qu'on a du métier journalistique, qui est pour beaucoup c'est devenu une profession honnie. Je pense que c'est une des professions les plus détestées. Alors à raison parce qu'il y a beaucoup d'excès, mais si des fois il faudrait recontextualiser parce que les gens critiquent, mais souvent ils ne lisent même pas. Donc c'est assez marrant. Après c'est pas grave. Et au PSG, en fait, ils ont une politique de communication qui est « on ne dit jamais rien ». Donc, on va froisser, etc. Donc, quelque part, les fans, j'ai l'impression, ils se disent « mais je vais défendre mon club parce qu'il n'y a que moi, en fait. Si on ne le fait pas, on est attaqué de toutes parts. » Et en même temps, le fait de faire cette politique de jamais répondre, ça influe, tu vois, je pense vraiment sur le comportement des fans. Après, c'est vrai qu'il y avait des trucs vraiment inutiles, type le PSG paye les impôts de ses joueurs. C'est-à-dire d'autres entreprises peuvent négocier ce genre de salaire. Enfin, est-ce que c'est légal ? Oui, donc pourquoi en parler ? Enfin, je vois pas le problème. Surtout qu'en plus, ça, c'est pas une révélation. Quelque part, on s'en fout, quoi. Et maintenant, oui, il y a beaucoup d'aveuglement. Ça génère des réactions épidermiques. Moi, je cherche à comprendre le pourquoi du comment. Je pense que ça vient justement de cette passion et de cet amour. Et aussi du fait qu'on se cache la vérité. Mais vraiment, hein, ça me fait rire quand j'entends complot autour du PSG, parce que t'as quand même un journaliste très connu qui a récupéré une Rolex payée par le PSG, tu vois.
Non.
Ah bah si. Et puis, je vais t'en dire une, mais tu as Jean-Martial Ribes, donc conseiller de Nasser El Khelaifi. Je peux te dire qu'il a des relais dans les médias, il appelle les mecs, et les mecs écrivent ce qu'ils veulent. Mais attention, c'est pas le seul à le faire. Hein. Héros, à Marseille, il fait pareil. Bizarrement, souvent, ça arrive aux mêmes journalistes. C'est marrant, ça, d'ailleurs. On se demande pourquoi, tiens. Et après, les mecs vont te donner des leçons. Bon, c'est un concept. Hein.
Ouais, c'est assez fou. Et je voulais parler un peu de... Ça a un peu rien à voir, mais je voulais parler de la Russie.
Ah bah. Ah bah.
Ah bah, comme tu dis. Notamment, on a Abramovic à Chelsea, propriétaire du club. On a Ribolovlev aussi à Monaco. Ouais. On a aussi Gazprom, etc. Donc, y a...
Oh, Gazprom.
Voilà.
Oh, Gazprom.
Donc, il y a depuis... Donc, Abramovic, c'est 2003, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Donc, depuis 15 ans, voilà, les Russes investissent de plus en plus dans le football. Ils achètent des clubs. Donc, il y a Gazprom aussi qui est, il me semble, sponsor de la Champions League. Pourquoi justement cet intérêt soudain pour le football d'élite, en fait, genre pour s'investir autant dans le football?
Et en Europe occidentale.
Voilà, aussi.
Autant il y avait des oligarques qui avaient récupéré des clubs en Ukraine, notamment le Dnipro, qui était détenu par Kolomoïski, qui est un homme d'affaires... Comment je pourrais le décrire? En Ukraine, c'est interdit la double nationalité. Et lui, un jour, il a déclaré « Pas de problème, j'en ai trois. » Imparable. Non, mais c'est des mecs... C'est des mecs incroyables. Écoute, Abramovic, c'est lui qui a tout commencé. Il a commencé par l'intermède de Pini Zahavi. C'est lui qui va le convaincre d'investir dans un club de foot en Occident. Londres, c'est devenu Londongrad depuis 15 ans. C'est le surnom, même si là, c'est un peu en baisse avec ce qui est en train de se passer. Chaque cas est différent. Abramovic, c'est un très proche à la base du Kremlin et de Vladimir Poutine. Alors, c'est intéressant que tu en parles, parce que la deuxième partie du livre, La Mano Negra, c'est vraiment centré autour de ce contexte géopolitique, avec notamment le génie du mal, Boris Berezovsky, l'éminence grise de Boris Eltsine dans les années 90, le mec qui fait élire plus ou moins Vladimir Poutine. Et ensuite, Poutine se retourne contre lui rapidement, il va être en exil, en asile politique en Angleterre, il change de nom, vie complètement baroque, et lui aussi était dans des clubs de foot et tout. En fait, chaque cas est différent. Tu avais aussi Boulat Chagaïev, un Tchétchène qui avait racheté Neuchâtel Xamax en Suisse, faillite 6 mois après à Boulat, avec sa veste en daim et son associé Islam Satouyev, qui est un ancien peintre de bâtiments qui faisait des imitations de joueurs. Ah, c'était Neuchâtel, c'était folklorique. T'as Ramzan Kadyrov, donc gouverneur de Tchétchénie, qui avait fait une allocution contre Boulat. Boulat, c'est le mec qui avait fait le match en Tchétchénie avec les montres.
Avec Bogossian.
Exactement. C'était lui le père Boulat. Et lui, bon, tu peux te poser la question, mais je vais te donner une réponse qui, je pense, est quand même globale. Un club, est-ce que c'est pas l'assurance vie la moins chère et la plus sûre que tu pourrais trouver?
C'est une bonne question.
Dans ces cas en particulier, on peut vraiment se poser la question. Tu avais aussi des Russes qui ont racheté le club de Marbella et ils en ont fini en prison. Là, ils sont sortis. Ils ont fait une descente chez le proprio. Ils ont retrouvé des fusils, des lance-roquettes accrochés au mur. T'as la mafia russe qui s'est fait choper en D2 portugaise, Interpol y est allé, etc. Mandat d'arrêt international. Mais aussi, tu as des bons propriétaires russes. Tu en as pas mal en Lettonie aussi. En fait, quand tu as souvent un propriétaire russe au club, c'est souvent funky. Tu vois, si. En fait, je te dis encore une fois, il faut être détaché. C'est-à-dire, c'est comme le mec. Non, mais moi, j'ai trois nationalités. Donc, en gros, ça, c'est des mecs, c'est le monde parallèle. Donc, j'ai. Mais c'est une vraie question. Moi, je te dis, ma réponse, c'est. Bon, dans certains cas, pas tous, ne serait-ce pas la meilleure assurance vie possible.
C'est vrai, mais j'ai l'impression que parmi tous les exemples qu'on a et que tu as cité un petit peu. À part Abramovic, c'est souvent des histoires qui finissent mal. Même là, Monaco, je ne sais pas où ça va finir, mais ça sent un peu déjà la Ligue 2. Enfin,
Mecs du Palais veulent dégager Ribolovlev, Vadim, et également des mecs. Bruno Scropeta, directeur général adjoint, et Nicolas Olvek, qui est un adjoint de Vadim. Allez, les mecs, mais vraiment. Mais c'est pour te donner un truc, là, en ce moment, à Monaco, c'est plus ou moins GTA. Là, les mecs, c'est Tug Life. C'est en mode menace déguisée sans problème. C'est bon, c'est très tendu entre les deux parties, mais je peux comprendre aussi parce qu'il y a une différence culturelle. Et quelqu'un comme Vadim Vassiliev qui a dirigé Monaco d'une main de fer en oubliant le contexte monégasque, je peux comprendre aussi parce que c'est quand même le club de l'AS Monaco, de la principauté. Maintenant, pour Abramovic, ouais, mais regarde ce qui se passe actuellement. Réfugié en Israël, la Suisse l'a refusé. Je peux te dire qu'il y a plusieurs enquêtes qui sont... Voilà, pour le moment, il n'y a rien qui est encore sorti, mais qui sont en cours. C'est... Il a perdu pas mal de sa fortune également. Donc, Chelsea est plus ou moins en vente. Hein. Donc, tu vois, même là... mais ça, c'est à remettre dans le contexte géopolitique actuel. Et tout part de Boris Berezovsky, qui est un peu un des points centrales. Et c'est un des points le plus important du bouquin aussi, puisqu'il était impliqué donc, au Brésil avec le Brazilian Football Project, où quasiment ils sont tous morts. Et donc, c'est toujours à remettre en contexte géopolitique.
Et quel conseil tu donnerais à un supporter qui verrait arriver dans son club un investisseur russe, émirati, qatari ou américain?
De ne pas juger la nationalité.
Ouais.
Parce que je pense que les fonds de pension américains, on ne sait pas qui appartient et qui reprennent par la dette et les prêts, c'est peut-être beaucoup plus dangereux qu'un investisseur russe, par exemple. C'est vrai qu'on a le cliché du russe.
Oui.
On a le cliché du russe. Alors que bon, je pense que déjà, c'est un formidable pays, la culture incroyable, avec des auteurs exceptionnels. C'est un pays qui va laisser un leg, qui laisse un leg à l'humanité. Avec sa part d'ombre. Et c'est vrai que
on
la Russie des années 90...
On a un peu tendance à l'oublier avec le communisme et tout, même maintenant Poutine. Mais c'est vrai que historiquement, les auteurs et même la culture russe...
Ouais. Ils produisent toujours. Mmh. C'est un pays, c'est un grand pays. C'est un très, très grand pays. Même limite un empire quand tu vois le territoire qu'ils ont. Donc, moi, je dirais pas juste la nationalité, mais c'est d'être éveillé, de comprendre les raisons. Des fois, ça peut être des raisons pas forcément mafieuses. Ça peut être des relations d'assurance vie, parce que le mec a envie de faire du business, très rarement parce qu'il est juste passionné. Après, ça dépend de qui va s'entourer aussi. Tu vois, je pense qu'à Monaco, si Vadim Vassiliev s'était plus adapté au contexte monégasque, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Ouais.
Et ça, voilà, je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est que le mariage des cultures ne s'est pas réalisé. Mais donc, je ne jugerai pas directement par la nationalité, parce que je pense que ça ne sert à rien. Mais clairement, des fois, tu as des mecs qui sont là dans le foot, parce que clairement, c'est des criminels. Et c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, notamment de Russie. C'est ouais. Une réalité aussi. Mais ça ne veut pas dire que tous les Russes sont des criminels, loin de là.
Et est-ce que tu peux me dire si le propriétaire de mon club, Franck McCourt, c'est bien ou c'est pas bien?
Je ne connais pas assez Franck McCourt pour en parler. Le seul truc que je peux te dire, c'est que héros, le président, j'ai l'impression qu'il va être plus blanc que blanc. Là, j'ai l'impression que c'est les mecs qui veulent tellement contrôler leur communication, tellement ci, tellement là, et on a tous des défauts, gars, hein, dans la cuirasse. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les mecs qui se présentent en saint des saints. Je veux dire, Saint-Louis, il n'est pas revenu d'entre les morts, quoi.
Je voulais m'intéresser aussi à tes méthodes de travail. On a parlé justement des menaces que tu as pu avoir, des gens que tu rencontres qui ne veulent pas. Et ça m'a fait penser, quand j'étais en école de journalisme, j'avais un prof, Jean-Marc Manac, que je salue d'ailleurs, qui insistait beaucoup pour qu'on utilise des messageries cryptées. Il nous citait souvent l'exemple de Snowden, justement, qui voulait contacter des journalistes via des messageries cryptées. Est-ce que toi, tu passes par ce genre d'outils? Où tu t'es vraiment, entre guillemets, à découvert?
Un magicien ne révèle jamais ses secrets, mais évidemment que je ne suis pas découvert.
Ouais.
J'ai des gens avec moi, parce que j'ai été hacké pas mal de fois, donc maintenant j'ai quelques contacts afin d'être bien sécurisé. Mais par contre, je suis super transparent avec les gens. Tu vois, je ne vais jamais faire des trucs dans le dos, etc. Parce que la meilleure manière de ne pas avoir de problème, c'est d'être franc. Parce que quand tu commences à faire un truc déguisé ou essayer de prendre les gens pour des cons, tu n'apprends pas un vieux singe à faire la grimace. Donc oui, j'y vais pas la fleur au fusil quand même.
Effectivement, ouais.
Parce que bon, je suis pas non plus taré, mais par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font directement et tu peux pas toujours tout crypter, etc. Après je suis pas paranoïaque non plus, tu vois. Je sais qu'il y en a qui vont me hacker, qui vont essayer. Je le sais.
Ouais. Donc ça t'empêche pas de vivre non plus. T'es pas là à surveiller tous tes faits et gestes.
Bah, je suis allé en Corée du Nord, tu vois. Donc à partir de là. Même si avec les Coréens ça s'est très bien passé, non je suis honnêtement je reste tranquille parce que je me prends pas tellement au sérieux. C'est peut-être un défaut, mais d'un autre côté, pour pas virer complètement fou parano, c'est mieux. Et en fait je veux pas trop me donner d'importance. Je pense qu'en fait des fois quand on me pose la question sur les menaces, sur ci sur là, ça me donne trop d'importance, même si je sais que je suis pas mal écouté par le milieu du foot. Mais tu vois, j'ai quand même une audience et tout ça qui reste limitée, hein. Je suis presque confidentiel, je suis une niche, donc tant que ça reste comme ça, il n'y aura aucun souci.
Ouais.
Et ma liberté de ton, je la garderai par contre. Même si ça fait chier du monde, je ne vais pas changer qui je suis. Je ne peux pas, sinon ce serait mentir aux gens. Et le mensonge, ce n'est pas bien. Mmh. Autrement, j'aurais le nez qui va s'agrandir. J'ai déjà une grande patate à la place du pif, alors ça ira.
Et à force de parler, d'enquêter sur ces sujets-là, dont celui que tu nous as un peu, je mets des grands guillemets, teasé, justement, donc tu ne peux pas en dire plus. Est-ce que tu n'as pas peur un jour d'être vraiment... Tu dis que tu prends beaucoup de recul par rapport à ça, mais tu n'as pas peur d'être dégoûté à terme
de l'humain.
Entre autres.
Non, je crois encore à la montée humaine. Mais il y a des mauvaises herbes, c'est comme de partout. Je vais jamais faire généraliser le truc. Sur l'affaire dont je t'ai parlé, je suis pas tout seul dessus. Hein. Je suis dessus avec des mecs à l'international. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on l'aura. Et je pense que c'est œuvre de salubrité publique.
Effectivement. Et ça sert aussi à ça, les journalistes.
Il paraîtrait. Même s'il y en a, ils défendent pas la cause. On va dire des causes qui nous dépassent. Qu'au final, cette recherche-là, par exemple, pas de la vérité, parce que les mecs qui disent j'ai la vérité ou je suis objectif, pour moi, c'est ils ont un ego que je n'ai pas. Mais ce qui est juste, au moins, ce qui paraît honnête et moral, avec ma définition de la morale, et ce que je peux faire à mon maigre niveau pour essayer de faire avancer les choses. Si j'arrive à faire ça dans ma vie, bah, je serai fier parce que je penserai à toutes les victimes que ce mec a eues.
Et outre cette enquête du coup au long cours, est-ce que tu as d'autres projets, disons un peu plus légers, sur d'autres livres sur des personnalités du football, comme tu as fait avec Unai Emery ou Cavani?
Mon prochain livre, ce sera Rêve de Mondial, donc les pays qui ne vont jamais à la Coupe du Monde. Et en fait, je fais des groupes géopolitiques. Donc, on dit que la France est sur le toit du monde quand elle gagne le mondial. Bah, on va aller au vrai toit du monde, Tibet, Bhoutan, Népal. On va faire des groupes de la francophonie avec le Liban, le Cambodge, les tout petits pays ou également la zone de conflit. Palestine, Afghanistan, Syrie, Yémen. Également l'héritage communiste. Mongolie, Somalie, Cuba, etc. Donc ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'humain. Et en même temps, s'il y a une bio qui m'intéresserait, alors c'est pour le joueur, mais c'est pour autre chose, c'est Falcao. Pourquoi ? Parce que j'ai encore, tu vois, on parlait de bonté humaine, des mecs un peu authentiques. J'ai fait Cavani. Un des rares mecs authentiques qu'il y a dans ce milieu, c'est Falcao. Et derrière Falcao, t'as l'histoire moderne de la Colombie. En fait, mon idée, c'était de faire deux livres en un. C'est-à-dire, à la fin de chaque chapitre, au lieu de mettre un entretien, parfois comme je fais, parce qu'il y en a qui s'en foutent de l'histoire de la Colombie. Il y en a qui sont à cirer, je peux comprendre. Et bah, tu vois, je coupe pas leur lecture. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a deux chapitres en fait en un à chaque fois. La personne qui a envie de lire que le sportif, il pourrait, tu vois. Mais en même temps, moi, j'ai envie de faire deux livres en un, tu vois. Parce que le mec est né dans la pire période de l'histoire moderne de la Colombie, il s'est converti en un de ses symboles. Et souvent, dans l'imaginaire collectif, on associe les joueurs colombiens et les personnalités colombiennes à des gens un peu excentriques, type Valderrama, Asprilla ou René Guita. Et Falcao, il représente une autre partie de la Colombie, peut-être qu'on connaît moins bien, la partie pieuse, et aussi la réputation des Colombiens sur le continent sud-américain, peuple très éduqué devant l'éternel, etc. Et c'est assez marrant aussi de voir comment les politiciens utilisent Juanes, Shakira ou Falcao aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Colombie, qui essaye de se quitter justement de cette image, on va dire, juste et terrible. Parce que c'est aussi une réalité, ce qu'ils ont connu, et ça existe encore, il ne faut pas le nier. Mais Falcao, c'est un beau symbole aussi de ce qu'est la Colombie, et aussi de comment on peut réussir en étant soi-même et humble. Et c'est vraiment... Toi, je le rattache un peu à Cavani. Alors, il n'a pas le côté chasse-pêche d'Eddie, mais tu vois, c'est un mec qui a fait des études de journalisme à l'Université de Buenos Aires... C'est un mec, il a quelque chose.
Tu m'apprends un truc là, je n'étais pas au courant. Hein.
Il a quelque chose et les gens qui disent ouais, il a snobé plus ou moins la deuxième partie de son dernier avec Monaco, ouais, mais c'est un garçon qui a grandi avec l'équipe de Colombie au mondial. C'était le seul truc bien de son pays qui était limite en guerre civile. Le mondial pour un Colombien qui a grandi dans ces années-là, et en plus il a grandi dans la période, sa génération, c'est la génération de l'exil. T'as je ne sais pas combien de Colombiens qui ont dû s'exiler, comme lui au final. Et. Le fait de le voir réussir comme ça, le mec, il ne peut pas rentrer chez lui à Bogota. Il doit se déguiser. Et je trouve que c'est une belle histoire. Et ouais. Le foot en regorge, tu vois, on parle des trucs sombres. Alors, ces transferts ont été très sombres, par contre.
C'est vrai.
Mais derrière, il y a une vraie histoire, un vrai parcours, et il y a un pays, et il y a un peuple.
Emery, Cavani, Falcao, tu aimes beaucoup les joueurs un peu latins. Tu as vraiment une attirance pour ce type de joueurs-là?
Bah, déjà, je parle espagnol. Donc, c'est sûr que les Brésiliens, ce sera plus compliqué. Je parle aussi anglais. Ouais, j'ai toujours été attiré par l'Amérique latine, mais après, tu vois, je suis aussi très attiré par le Bhoutan, le Népal, le Pakistan, etc. Quoi. J'aime bien m'intéresser à ce qui se fait autour de moi. J'ai toujours été fan de géographie. Et donc, en fait, ça se reflète également par là, parce qu'à travers eux, en fait, c'est toujours des histoires. Il y a la grande histoire et il y a toutes les petites histoires aux alentours. Et moi, je me considère comme un conteur d'histoire. Et c'est vrai qu'honnêtement, quand j'ai commencé à travailler autour des Uruguayens, des Argentins notamment, ah, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est tellement facile. C'est humain. Et j'aime l'humanité. Donc, c'est con hein, ce que je dis. Hein. Mais moi, les strass et les pets, j'en ai rien à cirer. Tu vas parler avec un des meilleurs potes de Falcao qu'on appelle Choco. Au début, je me dis Choco. Pour moi, c'est un calamar, Choco. À Huelva, ils font le Choco. Un jour, je demande à un gars, pourquoi vous l'appelez Choco ? Et il me dit, bah, parce qu'il est noir. Et je dis, t'es sérieux ?
Je l'appelle. Et moi, quand je l'ai parlé, je ne vais pas son prénom, il me dit non, arrête, appelle-moi Choco. Et en fait, niveau culturel, tu vois, bah, ça m'a appris pas mal de choses aussi. Et le type, il est d'une humilité, mais c'est des gens, mais un autre ami de Falcao, il est prêtre et à moitié taxi clandestin à Bogota, quoi. Mais j'adore ces histoires-là, tu vois. Et j'apprends plein de choses sur les gens. Et souvent, c'est assez baroque. Colombie, c'est assez baroque. Hein. Colombie des années 90, on est à un niveau quand même assez sympathique.
Et là, on arrive quasiment à la fin de l'épisode. Je voulais te demander, d'ici à les 10 ans, comment tu vois l'évolution du football ? Est-ce qu'on aura toujours ces facilitateurs, ces hommes de l'ombre ? Est-ce qu'on arrivera à amorcer ne serait-ce qu'un début d'harmonisation des pratiques, d'épuration, de transparence dans les pratiques du football ? Est-ce que tu y crois ?
Non.
Non ?
Non. Bon, si le jour où il y aura de la transparence dans le foot, ça voudra dire qu'il y a beaucoup moins d'argent et de pouvoir en jeu. Derrière, t'as l'argent et surtout t'as la politique, la grande politique. Pourquoi autant d'États aujourd'hui vont miser sur le football ? Pourquoi l'Azerbaïdjan, à un moment donné, a mis Mamadov à Lens et aussi sponsorisé l'Atlético Madrid avec Azerbaïdjan Land of Fire ? Ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est un outil de la mondialisation. Je rappelle que le dernier Classico a été diffusé dans tous les pays sauf 4 dans le monde entier, dont la Mongolie et la Corée du Nord. Aujourd'hui, c'est un vecteur de mondialisation très fort qui va crescendo. Il y a une inflation sur le marché des transferts qui correspond à une augmentation des revenus. La question, c'est pas est-ce que la bulle spéculative peut péter, c'est même faux de penser ça. C'est est-ce que les droits TV seront toujours aussi, est-ce qu'il y aura toujours autant d'intérêt. Et le football a de plus en plus de fans. Et c'est de plus en plus puissant. Je vois pas ce qui pourrait l'arrêter, mais le seul truc, c'est que quand Pini Zahavi sera plus là, laisse-moi te le dire, ce sera plus Gila. Tout le monde va vouloir être capot à la place du capot. Et je pense que littéralement, ça va se finir, ça va se tirer au gueule. Hein. Et je suis très sérieux. Ça va être un règlement de compte à OK Corral. Ça, c'est une réalité qui va arriver d'ici très peu.
Bon, j'espère le plus tard possible quand même.
Bah, on va espérer parce que bon, j'ai déjà fait le Brazilian Football Project, ils sont tous morts. Bon, j'ai encore envie de vivre un peu moi aussi quand même.
Bah, oui, effectivement. Ah, ouais. Est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui nous écoutent sur ton livre comment tu as envie quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils abordent ce livre
de la meilleure manière ? De ne pas avoir peur de lire. Parce que des fois, ça fait peur la lecture, surtout quand on est jeune, parce qu'on est traumatisé par certaines lectures au lycée. C'est un livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, mais je pense qu'il est accessible dans le sens, c'est pas plein de chiffres, c'est pas plein de noms, c'est pas... J'essaie de vulgariser et faire de la pédagogie tout en allant au fond des choses. Et en fait, à chaque page, t'as de l'info, quoi. Je pense que c'est vivant, c'est comme un thriller. C'est le seul livre, je pense, des dessous du foot. En fait, je pense qu'il est complètement différent de tout ce qui a été écrit. C'est pas du tout sensationnaliste. C'est de véritables compréhensions avec des personnages presque de films, littéralement romanesques, bagnolesques même, pourrais-je dire, ou hitchcockiens, ça dépend.
Parce que comme je te disais, Figure, moi, il m'a fait penser à Evan Barksdale dans The Wire, donc on est clairement là-dedans. Hein.
Voilà. Donc, ayez la curiosité, je pense. On sait à quelle sauce, des fois, on sait pas à quelle sauce on est mangé, justement. C'est toujours mieux de savoir, je pense. Et puis surtout, la lecture, c'est... Je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais t'apprends énormément. T'apprends énormément... Et souvent, tu passes un bon moment parce que là, tu vas pouvoir réellement essayer de comprendre. Et souvent, je comprends, les gens sont perdus, ils lisent les football, ils ne comprennent pas tout, etc. Là, j'essaie de donner des clés de compréhension sans dire c'est que des mythomanes, c'est que des mafieux, etc. Et je ne suis pas là pour juger, moi. Je ne suis pas la nature avec un grand N. Donc, je donne les clés aux gens et ensuite, à eux de se faire leur propre avis. Donc, mon conseil, c'est simple. Ayez la curiosité et puis, bon, soutenir l'indépendance, c'est toujours mieux. Parce qu'après, quand on se plaint des médias, c'est bien beau, mais... On fait bien leur jeu parfois. Je parle des choses putrides.
Ouais.
Là, c'est du fond. C'est du fond et de la forme. Donc, pour tous ceux qui ont encore un brin d'espoir dans ce métier-là, n'hésitez pas.
Ça marche. Et le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te voir, te lire ou t'écouter ? Donc, lire avec ton bouquin qui va sortir, mais où est-ce qu'on peut te voir ou t'écouter ?
Alors, j'ai une chaîne YouTube, Romain Molina, donc, où je fais des vidéos régulières. Avec le chat qui passe en toile de fond et les voiturettes de golf. Donc, ça peut être sur les dessous du foot, ça peut être aussi sur d'autres thèmes, parfois plus culturels ou autres. Des fois, j'ai des invités également. Donc, là-dessus, j'ai un compte Twitter et une page Facebook également professionnelle. Et puis, écoutez, j'ai sorti 5 livres déjà. Et donc, un qui est traduit en Uruguay, un autre en Angleterre, en Espagne, bientôt en Russie. Donc, écoute, on peut me voir là. Et le mot de la fin, je rends un petit hommage également parce que donc, j'ai sorti tous mes livres sur la maison d'édition Hugo. Et Hugues de Saint-Vincent, le fondateur, est malheureusement décédé ces derniers mois. Et c'est grâce à lui aussi que je suis là. Donc une petite pensée pour lui, parce que je pense que la Mano Negra, c'est le meilleur hommage posthume que je pouvais lui rendre, parce que c'est toujours quelqu'un qui a voulu le fond des choses. Donc Hugues, là d'où tu es, j'espère que tu es fier.
Merci pour ces belles paroles. Et puis, bah, merci à toi, Romain, d'être venu dans Banquette.
Merci à
parler de tout cet univers fabuleux, j'ai envie de dire, du football et ses travers. Donc, merci beaucoup. Et à bientôt.
Merci à toi pour l'invitation et à très vite, j'espère.
T'en prie, ciao. Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique d'Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. À la prise de son, Marine Rowe. Au montage et mixage, Laurie Galigani. Merci à Romain Molina d'avoir accepté notre invitation. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour réagir à cet épisode. @banquette_ne sur Twitter et Banquette Podcast sur Instagram et Facebook. Et aussi, faites comme tous ces pères de famille qui ont des filles, à savoir qu'ils ont pris toutes les étoiles dans le ciel, mais au lieu de les mettre dans les yeux, mettez-les sur Apple Podcast. Et en plus, on n'en demande que 5, donc ça va, c'est pas beaucoup. Et du coup, moi, je vous laisse sur cette vanne dont je ne suis pas sûr d'être fier. Et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao !